Voilà, bien, nous allons continuer sur un certain nombre de méthodes de développement personnel ou de techniques pour mieux se connaître soi-même qui nous sont proposées aujourd'hui dans la société, mais également qui viennent pénétrer un certain nombre de structures ecclésiales. L'avis que je porte est un avis partagé, bien entendu, par d'autres personnes au niveau de l'Église, mais vous verrez aussi que d'autres personnes dans l'Église ne partagent pas cette optique. Il est naturel que je vous dise au départ que je vais vous partager, bien entendu, mon point de vue. Hein, et je vais essayer de l'expliciter, de l'étayer à partir d'un certain nombre de points que nous évoquerons. Donc, je préfère préciser d'emblée que ce que je dis ce soir ne correspond pas à une pensée qui serait officielle de l'Église à l'endroit des techniques dont on va parler, à savoir l'énéagramme ou la PNL. Mais elles sont l'objet d'une réflexion, je crois, très étayée, avec tout un travail. Nous avons rencontré Pascal Hyde dans le cadre de la pastorale Nouvelle Croyance et Dérives Sectaires, lors d'une journée où différents points de vue se sont confrontés. Confrontés, parce que je crois que là, il est important de clarifier chacun des positionnements. Voilà. Je dis cela, mais je voudrais quand même repartir, comme je l'ai fait la dernière fois, de l'heureuse perspective dans laquelle nous met cette parole de Dieu, parole révélée et parole à laquelle nous adhérons. Une parole créatrice et une parole recréatrice. C'est dans cette perspective vraiment d'une vision belle, bonne et vraie de l'homme que nous nous situons. Vous savez que la Genèse commence par cette parole de Dieu qui crée le monde et à chaque étape, Dieu dit que cela était beau. Et quand l'homme et la femme ont été créés, il vit que cela était très beau. Donc nous sommes dans une vision véritablement, ce regard de Dieu sur l'homme et sur la création est un regard, je ne dirais pas positif, comme on le dit aujourd'hui, dans une pensée positive. Et nous verrons que cette pensée positive est une pensée qui n'est pas nécessairement celle de la révélation. Mais la pensée de Dieu est la pensée de la beauté de la création, de la vérité aussi, de la justice, de la bonté. Et il nous faut nous convertir sans cesse dans ce regard de Dieu. Dans ce regard de Dieu qui nous dit la beauté de l'homme. Et quand Jésus voit les premiers disciples, il les voit dans tout leur potentiel, dans toute leur vocation plénière, dans toute leur finitude qui est de rendre gloire à Dieu et non pas, voilà, une perspective ou une vision limitée sur l'homme. C'est important de redire cela et de redire aussi combien ce souffle créateur est là dès le premier jour de la Genèse et qu'il planait, nous dit le texte, au-dessus des eaux. Et il nous faut rentrer dans cette perspective du souffle que l'on reçoit comme un cadeau permanent plutôt qu'un souffle que l'on va essayer de maîtriser comme on peut le maîtriser dans des techniques que nous avions évoqué la dernière fois, de yoga respiratoire, de pranayama, où on va essayer de modifier ses états de conscience en modifiant sa psychophysiologie, et notamment grâce au souffle. On l'avait évoqué. Voilà. Là, il est question de retrouver les fondements même de notre foi pour considérer toutes les perspectives qui vont être envisagées à travers ces nouvelles thérapies ou plutôt ces techniques de développement personnel. Je reviens sur ce premier passage de Jésus qui voit les disciples au bord de la mer Et nous avons peut-être un peu oublié dans notre tradition chrétienne qu'il est aussi des niveaux. Et il y a une évolution. Il y a les commençants, il y a les progressants et ceux qui sont unis à Dieu. Ces distinctions d'ordre mystique sont aussi très importantes puisque toutes les techniques initiatiques nous proposent également trois niveaux d'initiation. Il y a les apprentis, il y a les ouvriers et il y a les maîtres, si je me situe dans une perspective d'ordre maçonnique, par exemple. Il est important de considérer que peut-être anthropologiquement nous avons oublié ces graduations nécessaires à une pédagogie spirituelle. De même que nos espaces à l'intérieur de nos églises sont aussi des espaces qui nous donnent un sens pédagogique à cette rencontre et à cet approfondissement de notre relation à Dieu. Je crois que les orthodoxes sont beaucoup plus cadrants et cadrés que nous-mêmes. Nous avons peut-être un peu oublié cette dynamique de l'espace et puis cette dynamique du temps qui nous fait rentrer précisément dans une pédagogie de cette relation et de cette intimité de notre cœur à cœur avec Dieu. Et peut-être que précisément un certain nombre de méthodes ou de techniques qui sont extrêmement balisées, eh bien, nous disent des clés d'ordre anthropologique, mais dont la finalité n'est pas la même, nous le verrons, que dans notre perspective de révélation judéo-chrétienne. Je suis clair quand je dis ça ? Voilà. Donc, trois passions essentielles habitent le cœur de l'homme. La première des passions, classiquement, c'est la volonté propre. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et précisément, une des perspectives thérapeutiques, mais au sens plénier du terme de l'Église, c'est de rentrer dans une obéissance. Et précisément, vous avez vu toutes les arcanes du serpent que nous avons développé la dernière fois. Par essence, le serpent n'a pas d'oreille. Par conséquent, il ne peut pas rentrer dans ce rapport à l'obéissance d'une parole. Nous verrons que cette obéissance est très importante. Nous obéissons à une parole créatrice et en Jésus, une parole qui vient nous sauver. C'est très important donc que le premier axe thérapeutique, c'est de rentrer à nouveau dans cette obéissance. Une obéissance à la parole révélée. Le deuxième axe, c'est d'une certaine manière les relations affectives. Et les relations affectives, Dieu sait si dans notre société aujourd'hui, elles sont blessées. On le voit autour de nous, combien de divorces, combien de séparations, combien de jeunes aussi qui vont d'une conquête à une autre, souvent extrêmement légère. Et vous voyez combien les relations affectives sont blessées aujourd'hui. Et il nous faut reconsidérer cet axe de la chasteté relationnelle, qui nous entraîne précisément dans une oblation à l'autre plutôt que dans un profit et une jouissance de l'autre. Deuxième axe donc que nous propose la tradition, c'est la chasteté. Le troisième axe est lié à l'argent. L'argent tout-puissant, l'argent roi. Et il suffit de regarder l'actualité pour voir combien l'argent aujourd'hui domine et a une domination internationale que l'on a du mal à réguler. Et précisément, le troisième axe thérapeutique que nous propose l'Église, c'est la pauvreté. Non pas la pauvreté, si vous voulez, l'indigence, mais plutôt ce service de l'autre avec les biens de consommation. Que ce ne soit pas vraiment quelque chose qui nous enferme, mais qui nous ouvre et qui sert au bien de la famille, au bien de la communauté au bien de la société. Vous voyez, la véritable thérapeutique que nous offre l'Église, eh bien, elle est axée toujours sur cette obéissance, sur cette chasteté et sur cette pauvreté. Et nous verrons combien nous sommes bien loin du pouvoir illimité que nous propose Anthony Robbins, changer de vie avec la PNL, le livre référence, où précisément plus aucune limite n'est donnée. Nous n'avons plus qu'à essayer de faire en sorte que tout notre être puisse réagir et faire ce qu'il veut, d'une certaine manière, sans limite. Sans limite. Alors, on va parler, dans un premier temps, de l'énéagramme. Et l'énéagramme